Sur une chorégraphie de compagnons et de machines, une symphonie de sons, de destruction et de construction, Maëlys de Carangal accompagne le chantier de restauration du Grand Palais de son début jusqu'à sa fin, avec ces mots. Chronique d'un chantier, épisode 7.
Trois couleurs. Au Grand Palais, la couleur, ou l'idée d'un usage de la couleur remarquable et abondant, ne s'est pas imposée à moi immédiatement. Au contraire, j'ai longtemps eu l'image d'un bâtiment décoloré, un édifice de pierre, de métal et de verre, auquel ces matériaux accordaient une sorte de pâleur générale, un aspect achromatique. Or, depuis 2 ans que je me rends régulièrement sur le chantier, je vois monter la couleur, sa présence, ses enjeux. D'une part, j'assiste à une sorte de recoloration de l'ensemble de l'édifice, l'un des enjeux de la restauration étant de lui restituer ses couleurs d'origine, de les faire réapparaître, de les raviver ou de les recréer. D'autre part, ce que je trouvais pâle, fade, ce camailleux gris-beige qui me semblait s'étendre sur les lieux, est en réalité un monde coloré que je n'avais su voir. Un monde où la couleur se pense non pas en charge de pigments purs, color block, mais en gamme, en dégradé, en nuance, dans sa vibration. Prenons le vert, par exemple. Ce fameux vert Réséda, emblématique de la charpente métallique, est devenu le vert Grand Palais. Quand je reviens sur le chantier avant l'été, c'est justement cette couleur qui s'y travaille. Chaque poteau dans la nef est alors repeint de cette teinte initiale associée à des propriétés intumescentes. C'est dans les archives de l'entreprise Ripollin, célèbre fabricant en charge de la mise en peinture de la charpente en 1900, que l'on a retrouvé, répertorié dans le nuancier de l'époque, sous le nom de « vert Réséda pâle », la formulation première de cette teinte, ses composants, ses pigments, soit un mélange composé du RAL 6019 pour 30% et du RAL 6021 pour 70%. Cette couleur n'avait donc pas été créée spécialement pour le Grand Palais. Elle existait déjà. Elle est même très en vogue à l'époque de la construction du Grand Palais, liée à l'architecture des serres et à la mode des jardins d'hiver. La nef du Grand Palais a effectivement l'allure d'une gigantesque serre et le projet de restauration prévoit en outre de replacer le bâtiment au cœur d'un jardin. Cependant, le jour de mon retour, l'enjeu de la couleur s'est intensifié. Outre la définition exacte de la teinte elle-même, qui malgré tout ne va pas de soi, c'est son application qui requiert l'attention des artisans et compagnons du chantier. De fait, possédant désormais une composition anti-feu, la peinture s'est épaissie, sa consistance a changé et elle doit être appliquée en couches fines afin de ne pas empâter les volutes, les rivets et ne manquer aucun détail de l'architecture métallique. Regardons maintenant l'escalier d'honneur. Afin d'identifier sa couleur, disparue à la suite de décapages successifs, l'agence Châtillon Architecte, avec l'aide de l'atelier de Ricou et de l'atelier Arcoa, a mené une étonnante enquête au croisement des méthodes de la police scientifique et de la démarche archéologique. Un travail de collecte et de recoupement de données issues des phases préparatoires ou des phases chantiers. Le premier mouvement fut un retour à la documentation. Or, il existait peu de documents sur cet escalier Art Nouveau qui, par sa position dans l'espace, dans l'axe de l'entrée et donnant accès au salon d'honneur, constitue pourtant un élément majeur de la scénographie de l'édifice. Toutefois, des photos de 1900 en noir et blanc ont permis de saisir un contraste entre un escalier plutôt foncé et des monogrammes RF plutôt clairs. En outre, une description de l'escalier dans le rapport du commissaire de l'exposition universelle le qualifie d'escalier en bronze. Mais que veut-il dire au juste? En réalité, le bronze est un alliage qui se patine et s'oxyde et renvoie à toute une palette de teintes, du vert de gris au marron presque noir comme sur certains bronzes antiques ou au bronze doré. Qu'en est-il alors de ce bronze énigmatique, objet d'une longue concertation à la fois scientifique et sensible, qui aura mobilisé la maîtrise d'œuvre, les conservateurs de la DRAC, les historiens d'art, les artisans et les praticiens de la couleur? Sur le chantier du Grand Palais, les artisans se font archéologues de la couleur. Ils procèdent par sondage stratigraphique. Ils ouvrent des fenêtres de dégagement en certains endroits, puis ils décapent au scalpel, ils grattent, strate par strate, les couches de peinture qui y ont été appliquées jusqu'à atteindre l'épiderme original, la première peau. La peinture se définit comme une strate. Elle n'appartient jamais à son support, hormis pour la fresque où le pigment est incorporé au support. Cette première couche picturale fait l'objet d'un prélèvement minutieux avant d'être contretypée, rééditée grâce à un colorimètre, à un scanner qui livrera la formulation exacte de sa composition physico-chimique. Dans certains espaces du Grand Palais, particulièrement modifiés ou réutilisés, ce sont parfois 15 couches de peinture qu'il faut décaper avant d'atteindre la première strate. Mais plus encore, dans le cas de l'escalier d'honneur, c'est la campagne stratigraphique elle-même et plus généralement la recherche de la couleur juste qui ont permis d'accéder à la compréhension de l'ouvrage, de rendre intelligible sa nature composite et géniale, laquelle combine dans une même structure un escalier d'acier riveté et un somptueux élément de décor. En réalité, on a découvert qu'il s'agissait d'un grand trompe-l'œil semblable à un décor de théâtre. Le bronze n'y est présent que de manière sporadique, les monogrammes RF sont dorés à la feuille, la rampe est en laiton, alliage de cuivre et de zinc, le reste de la structure en fer acier, plat ou riveté. Il s'agit donc d'un ouvrage composite en fer, unifié par une même peinture, fondu dans une même bronzine, soit de la poudre de bronze en suspension dans du vernis. Pour l'heure, de nombreux essais de bronzine ont eu lieu afin de restituer sa teinte première à l'escalier d'honneur, un protocole incluant un fond marron-brun, puis une couche de peinture au vernis avec de la poudre de bronze, quelques pigments et la patine de l'ensemble, tout cela afin de redonner sa lumière à cet escalier monumental. J'observe enfin la dalle qui s'étend sous la partie sud de la nef, sa finition, ses couleurs. Bétonné dans les années 60, le sol avait gardé un aspect grisâtre, terne. Aujourd'hui, le projet de restauration a donné lieu à la création d'une nouvelle dalle de béton, immense dalle active dont l'une des spécificités est sa couleur sable, légèrement ocrée, à la fois plus chaude et plus lumineuse. Une teinte originale définie par l'architecte avec le conseil scientifique et technique. Ainsi, au-dessous, une couche de béton teintée dans la masse, obtenue par un dosage à 3 kg d'un colorant rouge appliqué sur toute la dalle, et au-dessus, un durcisseur appliqué au moment du coulage, une fois que le béton est juste assez dur pour que l'on puisse marcher dessus. Ce revêtement est une poudre quartzée qui vient à la fois durcir la surface de la dalle et lui donner son aspect teinté, puisqu'elle combine trois pigments, l'ocre, la pierre et le corail. Un gros travail de recherche aura donc présidé à la définition de la couleur du sol et nécessité pas moins d'une cinquantaine d'échantillons doubles. En effet, il s'agissait d'harmoniser la teinte du durcisseur de surface au quartz, déterminée la première, et celle du béton au-dessous, autrement dit une teinte visible, et une teinte invisible mais pouvant apparaître en cas d'éclat. Vert retrouvé, bronze restitué, sable ocré spécialement élaboré pour la dalle, ces trois couleurs ouvrent à chaque fois sur des enjeux sensibles et passionnants, chacune fait voir l'œil et en appelle à l'histoire, à la science, à la mémoire, mais sur le chemin du retour, alors que je m'éloigne le long de la Seine, c'est la passion générale que déclenche ce chantier qui me revient. Cette ferveur à restaurer ce bâtiment si vaste et si complexe dans le moindre détail, avec la même attention que s'il s'agissait d'une toute petite surface. Ce chantier complètement fou.